Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 22 mai 2024, dont voici d'abord les principaux titres. Le Front National pour la Défense de la Constitution de Guinée menace de reprendre les manifestations si la junte ne cède pas le pouvoir d'ici à la fin de l'année. Commission d'enquête sur le complot déjoué à Kinshasa impliquant des étrangers, annonce le ministre de l'Intérieur de la RDC.
Et les choses seront beaucoup plus fixées lorsqu'un rapport de la commission mise en place pour faire des enquêtes sur les dossiers seront rendus publics.
Attaque djihadiste à la frontière Niger-Burkina Faso, 7 soldats nigériens tués, plusieurs dizaines de terroristes abattus. Au Togo, les nouveaux députés marquent le début de la 5e République.
Nous mesurons l'importance des responsabilités que nous prenons et que les Togolais nous ont confiées. Nous savons.
Au Soudan, 85 morts dans un hôpital d'El Fasher depuis la reprise des combats au Darfour, selon Médecins sans frontières. La Russie lance des exercices militaires près de l'Ukraine sur l'usage d'armes nucléaires tactiques. En réponse aux pressions occidentales, déclare l'armée russe. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le Front National pour la Défense de la Constitution et regroupement de la société civile qui a été au cœur des manifestations ces dernières années, très actif dans les récentes contestations en Guinée, a émis une menace claire ce mardi. Si la junte au pouvoir ne s'engage pas à céder le pouvoir d'ici à la fin de l'année, il va reprendre les protestations. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le FNDC, dissous par les autorités, est vent debout contre les militaires au pouvoir en Guinée. Nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, a déclaré Ibrahima Diallo, son représentant devant la presse hier à Conakry. Le FNDC, qui veut presser le général Mamadi Doumbouya à renouer le dialogue avec l'opposition, est connu pour avoir été le fer de lance de la contestation contre l'ex-président Alpha Condé, renversé en 2021. Il a déjà initié plusieurs journées de mobilisation sous la junte pour la pousser à partir. Samedi, une coalition de l'opposition, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, a également appelé à des manifestations. La junte avait accepté sous la pression de la CDAO de partir d'ici fin 2024, mais le nouveau Premier ministre, Amadou Ouriba, a confié qu'elle devrait rester à la tête du pays au moins jusqu'en 2025. Le chef de l'État de transition est resté silencieux sur le sujet. Les autorités militaires ont interdit toute manifestation depuis 2022 et fait arrêter, engager des poursuites contre ou pousser à l'exil un certain nombre de dirigeants de l'opposition, dont des membres du FNDC.
7 soldats nigériens ont été tués lundi lors d'une attaque attribuée à des djihadistes près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. En réponse, les forces nigériennes ont éliminé plusieurs dizaines de terroristes d'après le gouvernement de Niamey. Alexandrine Relogne.
Dans un communiqué lu à la télévision publique, le ministère de la Défense a annoncé un bilan provisoire qui fait état de 7 soldats tués, 2 blessés, dont un civil. Selon le texte, 4 véhicules de l'armée ont été également détruits, tandis que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés et leurs véhicules détruits. L'attaque a visé une position militaire dans la zone de Boni, une localité proche de la frontière du Burkina Faso dans le sud-ouest du Niger. Cette région, située dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est un repère pour les djihadistes sahéliens. Elle est régulièrement visée par les assauts des groupes armés, malgré le déploiement massif de forces anti-djihadistes. Début mai, des djihadistes présumés ont détruit un important pont avec des explosifs à Mossi Paga, une autre localité près de Torodi.
Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir deux villages voisins du centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes selon des habitants, mais 9 selon des autorités, dans une région secouée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Les habitants de cette zone, majoritairement musulmans, vivent principalement des activités minières. Un activiste et un prêcheur ont été placés en garde à vue à Dakar après avoir attaqué le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et ses récents propos sur l'homosexualité a-t-on appris mardi de sources proches dans l'enquête. Il s'agit de l'activiste Bad Yakate et du prêcheur Sheikh Ahmed Tidiandao. Les deux hommes font l'objet d'investigations pour diffusion de fausses nouvelles et offenses à l'encontre du chef du gouvernement, a dit la même source. L'Afrique du Sud tient des élections générales le 29 mai, cruciales pour l'ANC, parti au pouvoir depuis 30 ans, mais en perte de vitesse. Une cinquantaine de partis se disputent 400 sièges de députés qui désigneront ensuite le président. Au Soudan, Médecins sans frontières a annoncé mardi qu'au moins 85 personnes ont perdu la vie dans un seul hôpital de la ville d'El Fasher au Darfour depuis la reprise des combats le 10 mai. Ces affrontements opposent l'armée régulière sous la direction d'Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo. Un compte rendu de Yacouba Ouedraogo.
D'après Claire Nicolet de l'ONG Médecins sans frontières pour le Soudan, lors de la seule journée de lundi, 9 des 60 blessés reçus à l'hôpital du Sud, la seule structure médicale restante à El Fasher, ont succombé à leurs blessures. El Fasher est la seule capitale de l'État dans la vaste région du Darfour Ouest qui n'est pas sous le contrôle des forces de soutien rapide et constitue un centre humanitaire essentiel pour cette région. Ce mois-ci, elle a été le théâtre de combats acharnés malgré les appels répétés, y compris de la part des Nations Unies, pour que les combats épargnent la ville. Médecins sans frontières a déclaré que son hôpital au Darfour Nord a accueilli plus de 450 personnes tuées ou blessées dans les combats depuis le 10 mai. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies soutient que les habitants du Soudan sont pris au piège et sont de plus en plus exposés au risque de famine en raison de la saison des pluies et du blocage de l'aide. Les forces paramilitaires de soutien rapide ont annoncé leur volonté d'ouvrir des passages sûrs hors d'El Fasher. L'ONU a indiqué qu'elle ne dispose que de 12% des 2,7 milliards de dollars qu'elle demande pour le Soudan.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée russe a lancé mardi des exercices militaires près de l'Ukraine, impliquant l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Ces manœuvres, initiées début mai sur ordre du président Vladimir Poutine, sont présentées par Moscou comme une réponse directe aux menaces perçues en provenance de l'Occident.
La première étape des exercices sur la préparation et l'emploi d'armements nucléaires non stratégiques a débuté, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense. L'exercice en cours vise à maintenir la préparation du personnel et du matériel à l'emploi d'armes nucléaires non stratégiques pour réagir et garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État russe en réponse aux menaces de certains responsables occidentaux, a précisé le ministère. Il a précisé également que ces manœuvres se déroulent dans le district militaire sud, basé près de l'Ukraine et qui couvre des régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion. Ces exercices impliquent également l'aviation et des missiles hypersoniques Kinjal. Toujours selon le ministère russe de la Défense, l'arme nucléaire tactique, plus petite en charge explosive que l'arme nucléaire stratégique, est théoriquement destinée à détruire des cibles sur le champ de bataille et peut être tirée à partir des véhicules, des pièces d'artillerie, des navires ou d'avions.
John Lindon. Des pays européens s'apprêtent à annoncer mercredi une initiative visant à reconnaître un État de Palestine. Un projet déjà fustigé d'avance par Israël. L'Irlande va annoncer ce mercredi sa décision de reconnaître un État palestinien, ont affirmé dans la nuit des médias irlandais. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit prendre la parole devant le Congrès des députés. Il avait déjà indiqué la semaine dernière qu'il annoncerait ce mercredi la date de la reconnaissance par Madrid d'un État palestinien. Pour Israël, les projets de reconnaissance d'un État palestinien sans solution négociée constituent une récompense pour le Hamas, mouvement islamiste palestinien soutenu par l'Iran. L'autorité palestinienne a annoncé la mort de 8 Palestiniens dans un raid militaire israélien à Jenin, en Cisjordanie occupée, où l'armée a dit mener une opération contre des cellules armées du Hamas et du djihad islamique. L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué mener une opération et a fait état de nombreux échanges de tirs entre ses forces et les terroristes armés. Des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés tôt ce mercredi dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien Ebrahimi Raisi, tué dimanche dans le crash d'un hélicoptère, a indiqué la télévision d'État. La foule est massée dans et autour de l'université de Téhéran. Le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, doit diriger la prière à la cérémonie d'adieu à Ebrahim Raisi, décédé à 63 ans avec cette autre personne dans l'accident. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez ce matin la Minute Echo avec Jean-Roger Dion.
Le président Joe Biden et son homologue kenyan William Ruto discuteront de l'allègement de la dette kenyane en marge d'une visite d'État qui débute demain jeudi. Le Kenya est confronté à de graves problèmes de liquidité. Des sources affirment que des annonces conjointes importantes sur l'allègement de la dette sont attendues à l'issue de la visite d'État. Au Maroc, un restaurant met dans la lumière les personnes avec déficience mentale. Le projet créé en 2016 et soutenu par des partenaires publics et privés vise à surmonter les considérations sociales et culturelles pour aider les personnes ayant une déficience cognitive à trouver une place sur le marché du travail. Au Maroc, le taux de chômage des personnes handicapées est de 47,65%. La secrétaire américaine au Trésor a déclaré mardi que l'offre surabondante émanant de l'industrie chinoise constitue une menace pour le développement d'énergie propre dans le monde, un sujet qui sera discuté en priorité lors du G7 Finance cette semaine. Les pays occidentaux s'inquiètent d'un raz-de-marée de produits à bas coût qui mettrait en péril les concurrents étrangers dans les différents secteurs.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La finale de la Ligue Europa se joue ce soir.
Oui, lancé dans une saison historique, invaincu après 51 rencontres, le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, fait figure de favori face à l'Atalanta Bergame à Dublin en Irlande. Les Allemands emmenés par leur entraîneur espagnol Xabi Alonso et leurs Africains, le Burkinabé Edmond Tapsoba, l'Ivoirien Odilon Kosonou, les Nigériens Victor Boniface et Nathan Tella et le Marocain Amin Adli veulent réaliser le doublé en attendant la finale de la Coupe d'Allemagne. Il faut s'attendre à un match difficile selon notre consultant sportif Amdin Si.
C'est une finale qui ne sera pas facile parce que l'Atlanta Bergame, c'est vrai que jouera sa première finale européenne de l'histoire, mais c'est une équipe redoutable. Les Marseillais ne me démentiront pas, mais Leverkusen va jouer sa deuxième finale parce qu'ils avaient déjà joué une finale en Coupe UEFA en 88 et une finale de la Ligue des Champions, c'était en 2002.
Notre consultant sportif, Amdin Si.
Le staff technique de Samuel Eto'o, suspendu.
La chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ordonne la suspension immédiate des effets de la décision de la FECAFOOT portant nomination des membres de l'encadrement technique, médical et administratif de la sélection nationale masculine A. Pour rappel, la FECAFOOT avait procédé à des nominations à certains postes du staff technique en remplacement d'autres techniciens nommés par le ministre des Sports. Réagissant à ce nouveau rebondissement, la FECAFOOT dit prendre acte de cette décision de la chambre de conciliation et d'arbitrage, mais ajoute que la conséquence immédiate de cette mesure est la suspension immédiate du staff des Lions Indomptables avec à sa tête le sélectionneur Marc Brice. Elle dit se réserver le droit de transmettre à la FIFA ses décisions qui constituent, selon elle, un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. Le Cameroun affronte le Cap-Vert et l'Angola lors des fenêtres FIFA du mois de juin.
Vague de soutien au Mali pour Mohamed Camara, accusé d'homophobie.
Lors de la dernière journée du championnat de France, le joueur malien de l'AS Monaco avait masqué le logo contre l'homophobie floqué sur son maillot et porté par tous les joueurs, entraîneurs et arbitres dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discriminations pilotée par la Ligue de football professionnel. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa Castéra, a dénoncé un comportement inadmissible et demandé les sanctions les plus fermes contre le milieu de terrain et son club. Ceux qui se disent défenseurs de la liberté et de la démocratie doivent respecter les convictions religieuses des sportifs. Soutien total à Mohamed Camara, a écrit sur Facebook Amidou Doumbia, responsable politique malien.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et Eric Manilakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur le coup d'état déjoué à Kinshasa impliquant des étrangers, notamment des Américains, ainsi que des ressortissants congolais naturalisés britanniques. Suivez Peter Kazadi au téléphone de Eddie Isango.
Il s'agit des hommes armés qui ont commencé par s'attaquer à des résidences des personnalités politiques avant de chuter dans les bureaux du président situé au palais de la nation. Parmi eux, il y a des Congolais qui ont été recrutés ici et là, et beaucoup plus dans la province du Congo central. Ils se sont accompagnés d'un charlatan que l'on présente comme un féticheur qui devait les rendre invulnérables. Mais également, il y a des étrangers de plusieurs nationalités. Il y a des Américains, des Congolais naturalisés britanniques. Trois Américains étaient britanniques.
Si vous dites qu'ils sont venus de la province du Congo central, cela voudrait-il dire qu'ils sont venus d'un autre pays voisin avec, on peut parler de l'Angola ou du Congo Brazzaville?
Mais les enquêtes sont en cours. Je ne sais pas vous révéler les détails à ce stade, surtout lorsqu'il s'agit des pays où nous devons en avoir la certitude. Non pas nous contenter des déclarations préliminaires de ces bandits. Au moment opportun, je pense, un rapport sera rendu public par rapport aux événements tels que ça s'est déroulé.
Ils avaient des armes sophistiquées. Ils sont venus apparemment avec beaucoup de véhicules, un cortège. D'où venaient leurs armes et les véhicules qu'ils avaient? Apparemment, c'est de la police ou de l'armée congolaise.
Ils avaient effectivement des armes sophistiquées. Ils avaient également des drones. Et comme je vous ai dit, seules les enquêtes qui sont en cours vont déterminer la nature des armes et aussi leur provenance.
Puisqu'il y avait des étrangers, par où sont-ils entrés avec des passeports? Vous avez vu leur passeport avec visa ou quoi?
Mais je vous ai donné les détails sur les nationalités. C'est à partir de leur passeport et leur déclaration également.
Oui, mais les visas montrent qu'ils sont entrés par quelle frontière?
Je vous ai dit que nous rendrons public ces détails. Après, il y a des Noirs, il y a des étrangers, notamment des Américains et des Britanniques. Ça, c'est clair, on sait le voir même à travers les images. Nous avons la certitude, il y en a dont on a trouvé les passeports sur eux et ils ont confirmé leur nationalité étrangère.
Les départements d'État disent n'avoir aucune trace de la nationalité américaine de Christian Malanga qui serait leur leader.
Je pense que les choses seront beaucoup plus fixées lorsqu'un rapport et la commission mise en place pour faire des enquêtes sur les dossiers seront rendues publiques. Les ambassadeurs seront fixés. J'ai été contacté très tôt, les jours même des incidents, par l'ambassadrice américaine à Kinshasa, qui s'est dit disposée à collaborer au cas où les citoyens américains seraient impliqués. Je pense qu'au moment opportun, tous les éléments de preuve seront rendus publics et chacun tirera des conséquences.
Semble-t-il que c'était un ancien élément de forces armées congolaises et qu'il était déjà à Kinshasa, peut-être pour une collaboration?
Monsieur a été recherché par des services congolais depuis 2009. Effectivement, c'est un ancien de l'armée qui a fait défection, qui a tenté à plusieurs reprises de renverser les institutions de la République. Aujourd'hui, cette fois-ci, il est venu, il s'est jeté comme il s'est jeté là, espérant obtenir son objectif.
Depuis combien de temps il était à Kinshasa?
On ne sait pas déterminer, c'est à l'issue des enquêtes que nous pouvons vous donner des précisions.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur congolais, Peter Kazadi, dans la capitale congolaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les nouveaux députés ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale au Togo ce mardi, marquant ainsi le début de la 5e République togolaise. Cette transition intervient après l'approbation d'une nouvelle constitution dans un contexte de contestation. De Lomé, notre correspondant
Kossi Wusu.
8 jours après la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 29 avril, tous les nouveaux élus ont siégé pour la première fois ce mardi. C'est Aimé Gogué, député du parti de l'opposition Adi, qui a présidé cette séance inaugurale en tant que le plus âgé des députés, conformément aux textes légaux. Il a appelé les élus à transcender leur appartenance politique et à travailler pour le peuple.
Notre objectif ultime devait être le développement de notre pays, ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Je souhaite que dans cette salle, au lieu de dialogue, de concertation et de recherche de consensus, tous les actes que nous poserons, toutes les décisions que nous prendrons, soient toujours motivées par cet objectif ultime.
De bonne guerre, répond Kailosson, député du parti majoritaire Unir, qui estime que cette aspiration est en droite ligne avec les idéaux de son parti.
Vous savez ce que le doyen Dash nous a dit, ça correspond bien à la vision du président de la République, président de notre grand parti Unir, qui a toujours prôné le dialogue entre tous les Togolais. Vous savez que l'Assemblée nationale est là pour porter le gouvernement à aller en avant. Donc nous attendons la proposition du gouvernement pour voir ce que nous pouvons faire au cours de cette nouvelle législature pour permettre aux Togolais d'aller de l'avant et de continuer à construire ensemble notre pays main dans la main.
À cette rentrée inaugurale, Jean-Pierre Fabre, unique député de l'Alliance nationale pour le changement ANC, de même que Dodi Apevon des FDR, parti de l'opposition, ont boycotté la séance. Ce n'est pas le cas de Kafui Adjamagbou Johnson de la dynamique pour la majorité du peuple.
Nous mesurons l'importance des responsabilités que nous prenons et que les Togolais nous ont confiées. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever pour que notre nation soit réconciliée. Et notre Assemblée doit permettre de régler le problème de la Constitution qui a été adoptée sans la participation des Togolais. C'est une lourde responsabilité pour nous.
Pacôme Adjourouvi, ancien député et ministre en charge des relations avec le Parlement, attend beaucoup de cette nouvelle législature.
C'est une joie pour moi de retrouver à l'hémicycle aujourd'hui des députés nouvellement élus, rassemblement, unité, projection dans l'avenir. Voilà ce que nous attendons de la nouvelle représentation que le pays s'est doté.
Dans les jours à venir, l'Assemblée nationale adoptera son règlement intérieur en lien avec la nouvelle constitution qui fait basculer le pays dans le régime parlementaire. Elle procédera également à l'élection de son bureau. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Un nouveau rapport de Human Rights Watch appelle les Nations Unies et l'Union africaine à imposer un embargo sur les armes à destination du Soudan. Cette demande intervient alors que des actes de nettoyage ethnique se poursuivent dans la région du Darfour. Le point avec Henry Wilkins, le récit est de Gabi Dorsil.
Un rapport publié le 9 mai par Human Rights Watch détaille ce qu'il appelle le nettoyage ethnique en cours mené par les forces de soutien rapide et leurs milices alliées dans la région du Darfour au Soudan. Le rapport indique que les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire d'origine arabe, ont pris pour cible le peuple massalite qui n'est pas arabe et ont tué des milliers de personnes sans toutefois en préciser le nombre. Les Nations Unies indiquent qu'environ 8 800 000 personnes ont fui leur foyer au Soudan depuis que les combats ont éclaté en avril de l'année dernière. Le rapport appelle l'ONU et l'Union africaine à mettre en œuvre un embargo sur les armes à destination du Soudan afin de prévenir de nouvelles violences. Mohamed Ousmane est le principal auteur du rapport.
Il y a beaucoup de leçons apprises que la communauté internationale et régionale ne semble pas saisir ou mettre en œuvre pour empêcher d'autres atrocités. Nous avons tiré la sonnette d'alarme même, comme je l'ai mentionné, à partir de 2020, sur les attaques continues contre les civils. Nous n'avons pas vu de réponse appropriée de la part de la communauté internationale.
Ousmane affirme que ni l'ONU ni l'Union africaine n'ont donné suite au rapport.
Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun mouvement ou une réponse de la part de ces entités aux recommandations que nous avons formulées.
L'Union africaine n'a pas répondu à la demande d'interview de la VOA, pas plus que le bureau de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Soudan. En avril, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que des crimes contre l'humanité avaient peut-être été commis au Darfour et a depuis exprimé sa vive inquiétude quant à la poursuite des combats. Osman, lui, a exprimé sa frustration.
Je pense que nous devons avoir une conversation sur la responsabilité morale et politique en même temps, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes aux côtés du peuple soudanais et continuer à exprimer notre solidarité. Mais en termes d'action, quand les gens en ont besoin, nous n'allons pas de l'avant.
Mohamed Osman estime que la communauté internationale doit travailler ensemble pour mettre fin à la crise. En plus de la mise en place d'un embargo, il faut que les responsables rendent des comptes.
Il faut mettre le Darfour et le Soudan au centre de l'agenda, s'engager avec les parties prenantes soudanaises, pas seulement les élites politiques ou les militaires, parler aux groupes civils, à la société civile, aux communautés de réfugiés déplacés.
Une force de maintien de la paix de l'ONU qui avait été envoyée au Darfour après le génocide de 2003 a quitté la région en 2021, ce qui a provoqué une recrudescence des attaques contre les Massalites et d'autres groupes ethniques noirs. Les analystes estiment que la guerre civile qui a débuté au Soudan l'année dernière a aggravé la situation et entraîné un effondrement de l'ordre public.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les armes à feu divisent les électeurs américains avec un nombre presque égal de personnes adoptant des positions opposées dans le débat sur la sécurité des armes à feu selon un sondage de Pew Research. Les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump, ont également des points de vue divergents sur les armes à feu et leur contrôle. C'est un reportage de Scott Stearns, correspondant de la VOA. Le récit avec Antoine Roger Bolamba.
Près d'un tiers des Américains déclarent posséder une arme à feu, selon les Pew Research Center. Il s'agit d'un droit constitutionnel qui devient souvent un enjeu politique pour les présidents. Lorsqu'il y a eu des fusillades dans les écoles, comme celle survenue dans un lycée de Floride en 2018, et qui s'est terminée par l'évacuation policière d'élèves qui se cachaient dans leur salle de classe. Le président de l'époque, Donald Trump, a rencontré les familles des victimes pour discuter de la violence par arme à feu.
Cela dure depuis trop longtemps. Il y a eu trop de cas. Et nous allons y mettre un terme.
En tant que président, les politiques de Trump en matière d'armes à feu se sont principalement concentrées sur le renforcement de la sécurité dans les écoles, notamment en suggérant que les enseignants soient armés. En tant que candidat à la présidence, Trump a déclaré samedi à la puissante association défendant le droit du port d'armes à feu que les armes à feu sont essentielles à la sécurité personnelle.
Notre pays est en train de sombrer dans l'enfer. Des gangs avides et des criminels impitoyables, terrorisme rue et la faiblesse de Joe Biden nous fait vaciller au bord de la Troisième Guerre mondiale.
En acceptant le soutien de la National Rifle Association, Trump a déclaré que Biden essayait de, je cite, « retirer les armes à feu des mains des citoyens respectueux de la loi et de saper les droits sur les armes à feu garantis par le deuxième amendement de la Constitution ».
Nous devons avoir un deuxième amendement qui ait du sens. Si nous ne le faisons pas, nous allons connaître des niveaux de mort et de destruction que ce pays n'a jamais connus auparavant.
Lorsqu'un adolescent armé a tué 19 enfants et 2 enseignants dans une école primaire du Texas en 2022, le président Biden a déclaré « Nous devons agir ».
En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, allons-nous nous dresser contre le lobby des armes à feu ? Quand ferons-nous ce que nous savons tous au fond de nous-mêmes qu'il faut faire?
La Maison-Blanche et le Congrès se sont mis d'accord sur un plan bipartisan élargissant les vérifications des antécédents pour les jeunes acheteurs d'armes à feu et aidant les États à retirer les armes à feu des personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
J'ai promulgué la loi sur la sécurité des armes à feu la plus importante depuis près de 30 ans.
Depuis que les Républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2022, il n'y a pas eu de nouvelle législation sur le contrôle des armes à feu. Le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, blâme les partisans de Trump.
Aujourd'hui, les extrémistes du MAGA et le Congrès républicain inactif quittent la ville sans s'attaquer de manière significative à l'épidémie de violence par les armes à feu en Amérique.
L'opinion des électeurs américains sur les armes à feu se divise largement en fonction des clivages politiques. Les données des Pew Research montrent que les républicains et les indépendants ayant un penchant pour les républicains sont plus de deux fois plus susceptibles de posséder une arme à feu que les démocrates et les indépendants de tendance démocrate.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manerakiza à ce micro. Kermit Koyaweda a assuré la production et la réalisation. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée. À